130 livres, chronique du 4 janvier 2015, Mike Tyson contre Buster Douglas, le jour où le gnou a eu le lion. Profitons des passionnantes interviews croisées des principaux protagonistes de Mike Tyson contre James Buster Douglas, publiées dans la version américaine du magazine Playboy, pour revisiter 25 ans après la plus grande surprise de l'histoire des poids lourds et du noblard en général. Bien plus fort que Cassius Clay écœurant Sonny Liston, moins attendu encore qu'Asim Rahman allongeant Lennox Lewis d'une droite mouse, presque plus émouvant que le Cinderella Man Jim Braddock sapant Max Baer avec sa besogneuse persévérance. Ce numéro de janvier-février 2015 de Playboy est aussi l'occasion de voir se confirmer le retour en grâce d'une certaine pilosité. Mais passons. Il faut tout d'abord se rappeler que ce 11 février 1990, Tyson reste sur une dizaine de championnats du monde des lourds victorieux depuis qu'il a ravi la couronne WBC à l'anecdotique canadien Trevor Burbick, puis unifié les titres après une série de démonstrations de puissance et de technique rarement égalées. Âgé de 23 ans seulement, il a entre autres embouti les cadors de la génération post-Ali, Larry Holmes et Michael Spinks, ce dernier en 91 secondes d'une brutalité insane. Les superlatifs pleuvent sur le jeune homme dont le public se demande déjà s'il est le plus grand boxeur jamais vu dans la catégorie reine. Pour cette nouvelle défense de titre, le prodige américain affronte le second couteau James Buster Douglas dans un combat vendu comme le retour de Tyson après 7 mois d'inactivité et qui n'est censé être que la préparation d'un futur affrontement avec l'invaincu Evander Holyfield, monté des poids lourds légers. Le champion est favori à 42 contre 1. Le public américain ne risque pas d'acheter des milliers de tickets pour une nouvelle exécution sommaire, et le combat a donc lieu au Japon, plus précisément au Tokyo Dome. Cela fait déjà 2 ans que Tyson, très marqué par le décès de son mentor Cus D'Amato, est sous contrat avec le sulfureux Don King, appâté par ses discours de bonimenteur roué à base d'émancipation du pouvoir blanc et de chèques à 6 ou 7-0, dont le boxeur ne profitera finalement pas bien longtemps, mais ceci est une autre histoire. Le fait est que, sportivement parlant, le plus ébouriffé des promoteurs de boxe laisse faire à peu près n'importe quoi au grand enfant qui est encore Iron Mike, en particulier se séparer de ses coachs historiques et montrer très peu d'assiduité à l'entraînement. De son aveu comme de celui des observateurs de l'époque, il a plus perdu du poids pour la préparation du combat contre Douglas en batifolant au plumard avec des groupies locales que dans une conventionnelle salle de gym. Même s'il est un peu plus lourd que d'habitude, à 220 livres et assez mal préparé, personne dans l'entourage du champion, ni parmi les amateurs éclairés, n'envisage une défaite. On ne regarde pas un Nadal Gasquet pour le suspense ou National Geographic en attendant une victoire du gnou sur le lion. De son côté, James Buster Douglas, un boxeur plutôt dilettante mais qui présente les caractéristiques des adversaires les plus difficiles rencontrés par Iron Mike, tels Bon Crusher Smith ou Tony Tucker, avantage de taille et d'allonge, bon jab du gauche parfois doublé, est remonté et affûté comme jamais. Le décès 23 jours auparavant d'une maman dont il était très proche n'a fait qu'augmenter sa froide résolution à l'approche de la chance de sa vie. Le public ne le sait pas encore, mais les étoiles sont donc parfaitement alignées pour la plus improbable des belles histoires vues sur un ring. Dès l'entame, Douglas s'installe en patron derrière un jab de gala et une bonne défense de la main droite, puis enchaîne en touchant franchement le champion, lequel n'arrive pas à réduire la distance et placer ses habituelles combinaisons en crochet et uppercut. L'impression se confirme au fil des rounds. Tyson est lent, hésitant, esquive mal du buste en avançant, ne touche pas avec son crochet gauche breveté et se fait dominer de manière incontestable dans les échanges. Pour ajouter au désastre en gestation, les hommes de coin de Tyson sont en dessous de tout. Alors que l'œil gauche d'Iron Mike gonfle dès la fin du 5e round, ils n'ont pas le matériel ni les compétences pour soigner ce genre de blessure en l'absence d'un vrai cutman, et doivent remplir en catastrophe un gant de latex avec des glaçons pour tenter de contenir les dégâts. À propos de dégâts, on peut noter au fil des rounds que le champion n'est certes pas au meilleur de sa forme physique et psychologique, mais que sa capacité à encaisser tout ce qu'envoie Douglas, pas un très grand puncher mais un homme de 230 livres malgré tout, s'avère franchement impressionnante. Retenons qu'à son meilleur, Mike Tyson avait un sacré menton, en plus de l'énorme punch qui fit sa légende. Le public du Tokyo Dome n'a pas grand-chose à voir avec une foule avinée et vociférante de Vegas ou de New York. Des applaudissements timides ponctuent les nombreux coups au but du challenger et les fins de round. Comme le résume Jim Lampley pour HBO, les Japonais étaient venus voir Godzilla et sont finalement stupéfaits de le voir prendre une telle trempe en direct. Les deux commentateurs parlent presque à voix basse à mesure que progresse le combat, à l'unisson de la foule, et l'on entend surtout crier les hommes de coin des deux combattants. Dans les derniers instants du 8e round, Douglas devient trop confiant et accélère pour en finir lorsqu'un énorme uppercut de Tyson atteint enfin sa cible. Le challenger s'abat comme un chêne et utilise l'intégralité du compte pour se remettre debout avant d'être opportunément protégé par le gong de fin. Le 9e round est magnifique d'intensité et voit le challenger reprendre le dessus après les tentatives de Tyson d'abréger les débats. Si l'endurance était traditionnellement le point faible de Buster Douglas, on sent qu'il a cette fois-ci bénéficié d'une excellente préparation. Et c'est au 10e round qu'advient l'impensable conclusion. Tyson tombe sur un énième enchaînement de coups puissants. Il se relève avant la fin du compte, mais remet son protège-dents à l'envers et ses jambes flagellent. C'est donc logiquement que l'expérimenté arbitre Octavio Meran arrête le massacre. D'après le témoignage a posteriori de ce dernier, le président de la WBC, José Sulaiman, lui avait demandé avant le combat d'arrêter les frais rapidement si Douglas tombait, et inversement de favoriser la récupération du champion en cas d'improbable accident. Le fils et successeur de Sulaiman à la tête de la WBC a beau réfuter ces allégations, il n'en demeure pas moins que Meran ne fut plus jamais sollicité pour un championnat du monde significatif et arrêta sa carrière l'année suivante. Qui croire entre l'arbitre mexicain et le clan Sulaiman? Les pointages étonnamment serrés au regard du contenu à l'issue du 9e round, un raisonnable 82-88 Douglas pour un juge, mais de bien curieux 86-86 et 87-86 Tyson pour les deux autres, rappellent, si besoin, à quel point le World Boxing Council ferait passer la FIFA pour la fondation Abbé Pierre. Furieux à l'issue du combat, Dunking tente d'obtenir la conversion du résultat en no contest, arguant du fait que Douglas aurait bénéficié d'un temps de récupération trop long après son knockdown. L'allégation est tout sauf évidente quand on compare les deux comptes des 8e et 10e reprises. La victoire du challenger est définitivement validée après réexamen par une commission ad hoc quelques semaines plus tard, et l'inattendu Buster Douglas est bien le nouveau champion incontesté des poids lourds. Ce dernier n'a pas gagné sur un coup chanceux, mais en dominant tactiquement, physiquement et psychologiquement le pire épouvantail jamais vu sur un ring. C'est donc lui qui affronte dans la foulée Evander Holyfield, avec 10 kilos de plus et une motivation mise à mal par de compréhensibles difficultés à endosser le statut de vainqueur du grand Mike Tyson. Il sombre tristement en 3 rounds et ne disputera plus jamais un championnat du monde. En 1998, après une première retraite suivie d'un quasi-suicide au régime barbecue et donuts pour Douglas et les démêlés sportifs et judiciaires que l'on sait pour Tyson, la revanche envisagée un temps entre les deux hommes n'aura finalement pas lieu. La faute à une défaite de Buster par KO au premier round contre Lou Savarese, qui perdra exactement de la même façon quelques mois plus tard face à Iron Mike. Voilà donc Mike Tyson contre James Buster Douglas, incontestablement l'une des plus grandes surprises de l'histoire du sport professionnel, comme l'évoquent les commentateurs après le silence incrédule qui suit le chaos. Profitez-en, c'est un très bon combat de poids lourd, en plus d'une piqûre de rappel salutaire, en boxe plus qu'ailleurs, chez les lourds de surcroît, le gnou peut avoir le lion. Ce qui rend d'autant plus estimable la longévité au plus haut niveau d'un Vladimir Klitschko, quel que soit le standing des herbivores dont s'empilent les carcasses depuis déjà 10 ans.